De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Notre ami Hubert a pris sa marche de santé pour venir nous rejoindre et il est là avec toutes ses connaissances sur la politique internationale pour nous éclairer sur la situation en Catalogne. Hubert, bonjour.
Bonjour.
Approche-toi, s'il te plaît, qu'on t'entende bien. Et qu'on te voit bien également aussi. Hubert, est-ce qu'il y a un risque que les dés soient pipés, là, que le gouvernement s'auto-examine, si on veut, en étant juge et parti dans un procès contre les Catalans qui prônaient l'indépendance?
Oui, c'est ça qui est le point faible. Si je peux me permettre de faire un bref retour,
oui.
La Catalogne, en premier lieu, c'est une région du nord-est de l'Espagne, petit pays, grand comme la Belgique, peuplé sensiblement comme le Québec. Et c'est une région tout à fait particulière de l'Espagne. Il y a un peuple catalan, il y a une langue catalane, proche de l'espagnol ou du castillano, comme on dit, mais quand même autonome, une mentalité totalement différente. L'Espagne moderne s'est constituée au 16e siècle.
Une société distincte?
Nettement, très nettement. Autour de 17 régions autonomes. On connaît la Castille, l'Aragon, évidemment, le Pays Basque et la Catalogne.
Quand tu dis autonome, ça veut dire qu'ils ont leur propre gouvernement.
Un certain nombre de pouvoirs régionaux et des coutumes, une langue basque, par exemple, une langue catalane. Ailleurs, en Aragon, en Andalousie, c'est disparu. Mais enfin, avec un pouvoir central qui est la Castille, autour de Madrid. Et entre la Catalogne et le pouvoir central, il y a toujours eu une très forte rivalité. La Catalogne, se prétend plus ouverte, a toujours été de gauche. L'Espagne a été marquée, pour une histoire très courte, en 1936, par une affreuse guerre civile, qui était le préambule de la guerre 39-45. Général Franco a fait un coup d'État contre un gouvernement républicain.
Là, on ne pouvait plus être plus à droite que ça, là.
Exactement, sanglant. Et la région qui était la plus républicaine, communiste, anarchique, était de loin la Catalogne. La guerre était très dure. Évidemment, Hitler est intervenu, Mussolini, ou du côté de Franco, alors que les autres puissances conservaient une neutralité plus ou moins bienveillante. Et Barcelone était la toute dernière ville à tomber aux mains des Franco. De Franco, et après ça, il y a eu une représailles terrible. Donc, ça a toujours été gauche, très opposée à Madrid. Même sur le plan football, vous avez le fameux Real de Madrid et le Barça de Barcelone. Des matchs autrefois Canadiens-Toronto, comparé à ça, c'est absolument rien.
Canadiens-Nordiques?
Exactement. Donc, très enflammé. Donc, c'est toujours un peuple distinct qui avait un pouvoir autonome.
Donc, des gens qui ont été, excuse-moi l'expression, poqués là, par, dans leur histoire, là, par le contrôle central de Madrid.
Et il y a un fort sentiment autonomiste, mais avec une forte tendance maintenant indépendantiste.
Le référendum là-dedans est arrivé comment?
Le référendum est arrivé à l'automne 2017. C'est une escalade. Il y a deux hommes qui sont en quelque sorte grands responsables, en grande partie, bien sûr, de la crise. D'une part, il y a le premier ministre Rajoy, conservateur très dur à Madrid, et vous avez celui qui est actuellement en exil à Bruxelles, le chef des indépendantistes catalans, donc Carles Puigdemont. Deux fortes personnalités, et il y a eu une escalade. Rajoy s'opposait à tout, même rognait un peu l'autonomie, et carrément, Puigdemont réclamait l'indépendance. Et à l'automne 2017, ça s'est précipité. En juin, Puigdemont annonce qu'il y aurait un référendum le 1er octobre sur l'indépendance de la Catalogne. Évidemment, pour pas question, l'Espagne est une indivise. Donc, pas question de référendum.
Ils ont le droit de faire ça?
Eux disent, on s'appuie sur la Constitution espagnole, point de vue démocratique, un principe qui dit qu'un peuple a le droit de disposer de lui-même. Donc, ces deux volontés, Royal a fait la ligne dure. Le 1er octobre est extrêmement mouvementé, 2017. Un certain nombre de bureaux de vote ont été ouverts. Le gouvernement central avait envoyé 10 000 policiers de la Guardia Civile. Ensuite, arrestation de chefs indépendantistes, destruction carrément d'urnes. On a vu des votants qui ont été matraqués, etc. Finalement, le référendum a eu lieu qu'en toute petite partie, et Madrid dit « il n'est pas question de reconnaître quoi que ce soit, le référendum est illégal ».
Mais là, quand tu dis « en toute petite partie », c'est quand même 43% oui. de la population catalane qui s'est prononcée, 90% d'entre eux oui. en faveur.
Sauf sauf que le gouvernement de Madrid a dit « oui, mais on sait que ceux qui sont à faveur du pouvoir central ne sont pas présentés ». Donc finalement, le fond, c'est que le gouvernement de Madrid refusait qu'il y ait un référendum.
C'est le jeu des élections et des référendums.
Oui. Regarde, Donc, par conséquent, tenue illégale. Et après ça, c'était la série d'escalades. Arrestation d'un certain nombre de chefs indépendantistes à nouveau, muselage, ensuite exil de certains dirigeants, dont Puigdemont, avec 5 de ses collaborateurs.
Mais ça, c'est carrément de l'oppression, ça? C'est
Carrément.
Ça pourrait être jugé par un tribunal international, ça?
Parce qu'il y a deux tendances. Évidemment, l'Espagne dit « on est un pays ». Pas question, évidemment, de force indépendantiste et autres. L'Espagne est indivise. Et évidemment, les Catalans disent « on est un peuple, on a le droit à l'autodétermination ». C'est pas pour rien que Puigdemont a choisi Bruxelles. C'est la capitale de l'Europe. Par contre, l'Europe est aux abonnés absents dans ce dossier. Il ne veut pas se mêler officiellement des affaires de l'Espagne. Peut pas, évidemment, être en faveur d'un acte antidémocratique.
Et là, je vous fais sauter encore un bond. Le procès, il arrive comment là-dedans?
Mais le procès, c'est la suite de ceux qui ont été arrêtés à cet automne 2017, qui sont détenus depuis ce temps-là. Donc, on a attendu un certain temps, et là, en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole, peu importe, on les accuse carrément de sédition, de trahison. Donc, ça peut
et
être...
Et de violence. Là, la violence, elle venait pas des indépendantistes, elle venait des guardias civils.
Oui, qui ont voulu fermer les bureaux de vote. Donc, le problème, c'est que le gouvernement de Madrid refuse tout vote, tout référendum. Donc...
Ça, là, quand on voit, parce que, veut pas, vu de l'extérieur, on voit que... On se dit, ben pourquoi Madrid les laisse pas partir? C'est des fouteux de troubles. Ils font juste fomenter une révolution. Il y a sûrement des intérêts économiques qui font que...
La catalogue est importante. C'est environ 13% de la population espagnole. Par contre, c'est 20% du produit intérieur brut. Beaucoup de nos auditeurs vont en vacances en Catalogne. Mmh. Barcelone est une ville absolument extraordinaire. Mmh. Vous avez la grande avenue, la Ramblas. Vous avez la fameuse cathédrale, la Sangrina Gaudi. Familia de Gaudi. Une ville extraordinaire, les plages, c'est un peuple beaucoup plus décontracté, beaucoup moins conscient que les Madrilènes. C'est déjà une ouverture sur le monde, il y a des Catalans de l'autre côté de la frontière, à Perpignan, en France et autres. Bref, point de vue économique, c'est important pour l'Espagne. Puis il y a le principe, encore une fois, que l'Espagne est indivise. Donc, le chef conservateur, Rayol, fait une politique dure, refuse tout compromis. Il a refusé de rencontrer, évidemment, le chef indépendantiste en exil, Puigdemont. Il fait la politique dure et les procès ont pour but de terroriser, finalement, ceux qui voudraient repartir le mouvement.
Quand tu parles du principe là, de l'Espagne indivise, est-ce que c'est par leur constitution qui fait en sorte que... C'est pas des provinces? C'est pas comment ça fonctionne?
C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir central, Madrid... Et ensuite, l'Espagne moderne s'est faite par la reconquête de l'Andalousie au milieu des Arabes, avec des peuples très différents, parlant des langues différentes. Il y avait les Basques, les Catalans, évidemment la Castille, Castillano, évidemment l'Andalousie et autres, et on a formé un royaume, finalement, qui s'est maintenu, mais avec des peuples différents, finalement, avec une royauté. Et quand la guerre civile était terminée, Franco a exercé le pouvoir absolu et on est revenu en chapitrant par une royauté avec Juan Carlos que Golgadillo, Franco, voulait comme successeur. Mais actuellement, le roi d'Espagne, le fils de Juan Carlos, est jeune, pas d'envergure et peut pas influer au-dessus de la mêlée.
Il n'est pas en exil, lui, là?
Il est toujours à Madrid, sauf qu'il n'a pas d'influence. Il peut pas jouer un rôle moral pour régler la crise.
Donc, si je comprends bien, l'Espagne, effectivement, c'est un grand territoire. On le divise culturellement à cause de son histoire, mais il n'y a pas de... Comme quand tu parlais de l'autonomie de chacun des secteurs, c'est pas un gouvernement au même titre que nous, on a des gouvernements provinciaux, là.
Ils ont une certaine marge de manœuvre, mais plus limitée que les provinces chez nous.
C'est plus des MRC, finalement.
Donc, eux, c'est le principe que l'Espagne est indivise, oui. Et il n'est pas question que ni les Basques, ni les Andalous, ni les Catalans se séparent en quelque sorte de l'Espagne.
Mais ça semble, vu de l'extérieur, puis avec l'histoire que nous, on connaît aussi chez nous, on ne peut pas faire autrement que penser que c'est inévitable que ça se fasse un jour.
On ne peut pas empêcher un peuple de s'exprimer. Manifestement, et les Catalans sont des gens très ouverts, très instruits, donc par conséquent, on ne pourra pas
Le gouvernement de Madrid, j'imagine, c'est un gouvernement qui est élu par l'ensemble de l'Espagne?
Oui, il y a un gouvernement fédéral, en quelque sorte, dit fédéral centralisateur, et un gouvernement des régions qu'on appelle des Cortés.
Ils n'ont pas d'alliés dans les autres régions qui pourraient faire en sorte que ce gouvernement-là soit remplacé par un gouvernement plus ouvert aux prochaines élections?
Avant ça, le gouvernement central supportait une certaine autonomie de plus en plus poussée de la Catalogne. Mais depuis que le Rajoy est au pouvoir, lui refuse tout compromis. Il revient à la politique très dure, que la Catalogne est une région comme les autres.
Là, il y a des emprisonnements sévères. Là. Il y a quelqu'un qui risque 25 ans, entre autres.
Ben, l'acte de trahison, de sédition, c'est une accusation grave.
Alors,
Et qui ne repose pas, évidemment, ces deux conceptions du droit. Le gouvernement central qui dit « Nous, on défend le pays, la Constitution, etc. » Et les autres disent « On est un peuple qui a le droit de s'exprimer et au moins de tenir le référendum. » Parce que le gouvernement, depuis Puigdemont, a toujours dit « On tient le référendum. Si on le gagne, le Catalogne devient une république indépendante. Si on le perd, on conserve le même statut de province associée. »
Eux l'admettaient, là, un côté ou l'autre.
Mais, évidemment, ce qui fait... Ce qui déclenche beaucoup de violence, c'est que Madrid refuse toute consultation et tout vote démocratique.
Violence qui, d'ailleurs, fait partie de... C'est là où on conteste du côté de la défense, violemment, si on veut, c'est là où on fonde le plus d'espoir. Parce que la violence, comme je le disais tantôt, elle vient pas des Catalans, elle vient de...
Non.
Hubert, c'était à nouveau un grand plaisir. On va falloir qu'on parle de Trump bientôt, parce que là, l'étau se resserre. Là.
Oui, mais il s'en tire toujours.
Mais... ça regarde pas bien.
Ouais.
Vous voyez une photo de récemment d'inauguration, je pense, son discours, son fameux discours, ce qu'on appelle, nous, le discours du trône.
Oui, de l'Union.
L'adresse de l'Union. Là. Les personnages qui sont sur celui de la dernière fois... Ils sont tous partis, soit emprisonnés, soit démissionnés, ou soit remerciés.
Ils ont démissionné,
remerciés.
C'est certain, mais ils rebondissent toujours.
C'est un drôle de phénomène. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Hubert, à nouveau.
Ça me fait plaisir, Hugo.
Merci également aussi à M. Sylvain Dubé, directeur adjoint des communications, des relations médias et ministérielles, qui a su nous éclairer un peu plus sur ce qui s'en vient au CI3S, ici à l'Hôtel Dieu, avec ce directeur adjoint qui sera affecté aux activités hospitalières. Et puis, merci à Gilles Salva. Alors, la paix est revenue à la MRC et tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Du moins, ils ont signé.
Ils ont signé. Puis, il y a des beaux projets, entre autres, avec ce comité sur les transports et la mobilité pour la région. Ça risque d'être fort intéressant. Stéphane Martin.
Merci à toi, Jean Lemay.
Alors, va chercher ton cœur en chocolat.
On marque pas là-dedans.
Pour ton fils. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre On a des choses à dire. Joyeux Saint-Valentin, tout le monde.
Salut. Au revoir.